Donc on va continuer avec un séminaire de Jean-Michel Morel. Donc Jean-Michel Morel a toute une équipe au CMLA. Il a reçu beaucoup de prix, dont notamment le Grand Prix INRIA pour tous ses travaux en traitement d'image, mais aussi avant en EDP, sur lequel il a fait beaucoup de choses en lien avec le traitement d'image. Et il a une vision très complète de toutes les problématiques de débruitage qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci Stéphane de me prêter une assistance nombreuse et brillante. Donc je me suis adapté à l'idée que je faisais plutôt un cours qu'un séminaire, donc je vais faire une sorte de panorama d'un sujet qui est le débruitage d'images. Alors ça tombe vraiment très très bien avec le cours que vous venez de suivre, parce qu'on va reprendre pratiquement toutes les notions qu'on a entendues, mais comme une illustration. Donc vous pouvez voir ça comme votre travail pratique après le cours. Donc je veux remercier mes collaborateurs, Miguel Colon, Axel David, Thibaut Herré, Gabriele Facciolo, Marc Lebrun, Nicolas Pierazzo, Martin Reiss, Yihi Wang, Pablo Arias, Samuel Huro, parce qu'en fait, je vais montrer beaucoup d'expériences et de théories, d'essais qui leur sont dus. Alors, le débruitage, c'est un problème qui peut paraître un peu spécialisé, un peu technique, mais qui est quand même pratiquement la première opération qu'on fait sur tout signal. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à enlever le bruit. Donc, ce que je vais, le bruit dans l'image, qui est lié juste au fait que le bombardement photonique obéit à des lois quantiques et que donc chaque capteur d'une image reçoit un nombre aléatoire de photons. Alors, comment est-ce le modèle dont on a besoin pour dire ça, c'est très 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 simple. C'est le modèle pinhole, marche parfaitement pour les caméras. Il nous suffit à comprendre la géométrie, à comprendre à peu près ce qui se passe au niveau aussi physique. Le modèle de la caméra oscura, et c'est juste une pièce dans laquelle on a percé un petit trou dans une des parois, et à ce moment-là, ça permet une focalisation, donc les objets extérieurs sont projetés à l'intérieur de la chambre obscure, sur la paroi en face. Je pense que ça a pu vous arriver par hasard en dormant dans une pièce obscure, si vous faisiez la sieste après avoir passé la nuit en goguette, donc vous avez pu peut-être voir ces images se former, il suffit qu'il y ait un petit trou dans un rideau ou dans un volet, et donc les caméras modernes sont en fait juste une adaptation au fait que d'une part on peut focaliser mieux la lumière avec des lentilles, et d'autre part donc le trou est remplacé par un système de lentilles, et d'autre part au fait que la matrice de capteurs est maintenant un ensemble de capteurs photosensibles extrêmement sensibles qui donc rejoignent et maintenant commencent à battre la rétine humaine, et donc voilà, on obtient ces valeurs. Alors ces valeurs qu'on obtient sont d'autant plus bruitées que le temps d'exposition est faible ou que l'éclairage est faible, ce qui revient au même, puisque tout dépend du nombre de photons. Donc l'image que nous avons en général qui sort d'une caméra peut être quelque chose comme ça, mais en fait si vous avez pris une photo avec une caméra, il y a du bruit au départ, que évidemment nous est caché parce que justement tous les systèmes commencent par débruiter. Mais donc l'image qu'on essaie de reconstruire, c'est l'espérance, parce que du point de mathématique, on peut dire qu'en chaque point de l'image, en chaque pixel, on a une variable aléatoire, qu'on va appeler U de X, ce qui est exactement la notation inverse de celle de Stéphane qui a fait X de U. Donc c'est pas grave. Donc ici X c'est le pixel et U c'est la fonction. Chaque pixel est une variable aléatoire. Ce qu'on pourrait retrouver, c'est l'espérance de cette variable aléatoire. Alors cette variable aléatoire, c'est la couleur des objets qui sont en train d'émettre des photons. Alors le bruit maintenant se définit juste comme la différence, c'est-à-dire que image bruitée égale espérance plus bruit, ce qui donne cette espèce de décomposition idéale. On voudrait évidemment enlever le bruit d'une image aussi bellement que c'est illustré là. Alors, une petite nuance quand même, c'est que ce que j'ai dit, je parle de variable aléatoire, il s'agit d'un vecteur en fait, puisqu'on a trois composantes qui sont, dans la technologie actuelle, en général dans les images spectrales normales, rouge, vert, bleu. Donc on a juste trois capteurs, donc trois valeurs à débruiter, d'ailleurs alternativement, puisque ces valeurs sont alternées donc sur les matrices des capteurs en général. Alors maintenant, est-ce qu'on peut débruiter ? Alors la réponse est, industrielle existe, on arrive de mieux en mieux à débruiter, et je crois qu'on peut dater des années 2000 à peu près, le moment où on a vu que le débruitage devenait assez professionnel, et on l'a vu dans le fait que dans les caméraphones, par exemple, maintenant on autorise, on prend des photos dans des éclairages tout à fait inhabituels, très sombres parfois le soir, donc dans un bar le soir, des choses comme ça. Et donc on peut néanmoins débruiter. Donc là je montre cet exemple que je n'ai pas fait moi-même, qui m'était prêté par la compagnie des XO, où ils illustraient comment serait l'image s'ils ne débruitaient pas. Donc vous voyez ces espèces de taches en tout genre qui sont dues d'une part au bruit et ensuite au fait qu'on essaye quand même d'interpoler le bruit pour reconstruire justement les couleurs, c'est par l'opération de démosaïquage. Donc en réalité, enlever le bruit est d'autant plus important que le bruit n'est pas traitable. Donc même si on le remettait, il faudrait d'abord l'enlever et ensuite le remettre, ce que d'ailleurs on ne se prive pas de faire. Typiquement, si on veut réinterpréter correctement les couleurs, il faut enlever le bruit, interpréter les couleurs, et après on peut s'amuser à remettre le bruit si on veut garder un grain, par exemple, mais on ne peut pas faire ce qui est ici, vous voyez, qui est une catastrophe. Et donc, par contre, si on fait les choses correctement, on a ça. Donc là, j'alterne, vous voyez quand même qu'on gagne, et ça c'est un fait assez récent quand même, on voit mieux dans les images après qu'avant. Donc ça, je crois que c'est maintenant à peu près acquis. Donc notre technologie, notre science des signaux a atteint un niveau où on arrive effectivement à faire un résultat qui est plus convaincant que ce que fait notre cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, on préfère quand même montrer des images débruitées que des images bruitées aux gens. Alors, en fait, avec du recul, finalement, l'histoire est assez simple à raconter. Donc, je vais la raconter, j'ai mis en 5 formules. Effectivement, ça va être à peu près 5 formules. Et en fait, vous allez voir que ça se ressemble beaucoup en plus. Alors, mon plan, c'est de montrer d'abord comment on voit ça dans Fourier. Ensuite, on ira du local Fourier à ce qu'on appellera le non-local, les filtres à voisinage, les filtres non-locaux, et puis finalement les filtres globaux, c'est-à-dire ceux qui... Donc là, on arrive à l'apprentissage, c'est-à-dire ceux qui décident de débruiter en utilisant non pas ce qu'il y a dans une image, mais pourquoi pas toutes les images. Et donc, naturellement, nous arrivons aux algorithmes de machine learning dans l'apprentissage. J'ai mis un 6, mais je ne le traiterai pas. Alors, je vais commencer par ce que vous avez vu dans votre cours aujourd'hui. Donc, l'hypothèse de base, les premiers algorithmes de débruitage sont basés d'abord sur la transmission de Fourier. Après, à ce moment, on est passé grossement aux ondelettes, que vous verrez. Mais donc, je vais parler uniquement du cas de la transmission de Fourier. Et l'idée est très simple, c'est qu'on va prendre on va décomposer l'image en Fourier et on va dire que l'image est parcimonieuse dans la transmission de Fourier. Et donc, si elle est parcimonieuse, elle aura quelques gros coefficients et les autres, on les mettra à zéro. L'ennui, c'est que ceci est faux. Si vous faites le transmis de Fourier du compte d'une image, vous regardez le transmis de Fourier, vous verrez une espèce de quelque chose qui ressemble peu à un bruit, comme ce que vous voyez tout à l'heure. Et il n'est absolument pas vrai que dans le transmis de Fourier, l'image est parcimonieuse. Mais c'est ce qui est vrai, par contre, ça a été découvert très tôt, c'est que, par contre, ceci est relativement bien vrai si on utilise du Fourier local, c'est-à-dire qu'en gros, on renonce à travailler sur toute l'image, on ne va jamais travailler sur toute l'image, l'image dans une dimension beaucoup trop grande. On va donc faire une première réduction de dimension, assez fantastique, puisqu'on va passer de plusieurs millions de pixels à peu près, dans les ordres de grandeur, c'est quelques dizaines. Donc là, la mode des années 2000, c'est d'utiliser des patchs 8.8. Donc des patchs 8.8, on est quand même en dimension 64. Et donc, l'algorithme qui existe depuis au moins 30 ans, je dirais, qui 40 ans, consiste à... L'algorithme de débruitage le plus classique consiste donc à 1 extraire de chaque de l'image des patchs, donc ces petits carrés 8-8 où on reconnaît tout juste un petit détail. Vous voyez, 8-8, c'est vraiment petit. Et donc, ces patchs PX, on va les traiter un par un, on leur applique la transformée, la discrete cosine transform. Alors, la discrete cosine transform, c'est juste la transformée en Fourier discrète, mais qui traite le signal comme étant pair. Donc, ça, c'est un détail, donc je passe dessus. Disons, on peut penser que c'est juste la transformée de Fourier. En tout cas, de toute façon, la base donc, de DCT apparaît ici. Elle est montrée là, donc vous avez 64 éléments ici. Donc on va décomposer le patch sur cette base et on va découvrir on va découvrir que la plupart des coefficients sur cette base sont pratiquement nuls. Effectivement, bon, quand on regarde une image, on ne voit pas tous ces aspects d'aspects d'échiquier que nous voyons là, mais effectivement, en général, les coefficients non nuls vont se concentrer vraiment sur les deux premières lignes. Et donc, mais on va faire, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, on ne va pas de toute façon projeter sur la première ligne ou même sur les deux premières lignes, ce serait un opérateur linéaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les coefficients et on va les seuiller, on va les calculer tous, on va les seuiller. Par exemple, on peut seuiller à 3 sigma. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a obtenu un patch débruité et on reconstruit donc le patch avec ces coefficients-là et donc on débruite. Alors, ensuite, curieusement, enfin, ce qui m'amuse dans l'affaire, c'est que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il y a eu une sorte de professionnalisation des recherches sur ce sujet, et cette professionnalisation a consisté que les gens proposaient des bases nouvelles et des méthodes nouvelles, mais en même temps, ils devenaient plus compétents sur la manière de faire ces opérations. Et donc, par exemple, donc, si on regarde, donc, je vous ai parlé d'un algorithme qui existe depuis il y a 40 ans, qui est le seuillage DCT, eh bien, si on regarde maintenant les améliorations qu'on peut faire en faisant les choses bien, dans le bon ordre, intelligemment, on se rend compte qu'on peut obtenir des résultats excellents. Et je peux vous vendre la mèche tout de suite, c'est que le meilleur débruitage DCT est seulement, disons, quelque chose comme 0,8 décibels en dessous du meilleur débruitage tout court. Bon, ceci est un peu vexant, et donc, mais ceci, 0,8 décibels, ce n'est pas rien. D'abord, on voit nettement la différence, d'une part, et d'autre part, il faut dire, pour l'aspect visuel aussi, il y a une différence assez nette qui peut-être n'est pas complètement mesurée par les décibels. Mais donc, alors, en tout cas, je vous montre, disons, ce que peut être le débruitage. Alors, curieusement, rien qu'avec la DCT, donc voici l'image, et voici l'image bruitée en haut. Donc, ici, vous avez... Bon, mes transparences sont un peu tronquées, mais c'est pas trop, sur la gauche, mais je crois que c'est pas trop grave. Donc ici, sur la gauche, vous avez donc ce que vous obtenez si vous seuillez... Pardon, là, c'est le... Excusez-moi, là, ça doit être encore l'image bruitée. Oui, donc ici, c'est un détail de l'image bruitée. Donc ici, ce que vous avez, c'est si vous seuillez juste le centre du patch, c'est-à-dire que vous reconstruisez le patch et vous gardez la valeur au centre, c'est-à-dire que vous avez appliqué la DCT, vous avez traité votre patch, mais vous utilisez juste la valeur estimée au centre du patch. Si on utilise le bon espace de couleur, on gagne un petit peu, même si ce n'est pas visible. Et là où on commence à gagner beaucoup, c'est si on fait de la redondance, c'est-à-dire si on fait des estimations multiples. Bon, je pense qu'avec le machine learning, on est en train de faire des estimations multiples, plus que multiples. Donc, en tout cas, il est intéressant de voir que ce que les gens ont appelé à l'époque agrégation consiste justement à prendre tous les patchs, mais absolument tous les patchs, pas juste le patch centré en un point, mais on débruite tout le patch et on garde la valeur débruitée pour tous les pixels du patch. Et donc, ça veut dire que chaque point dans l'image, si les patchs sont 8-8, va être débruité 64 fois. Et en plus, on les agrège et on peut faire une agrégation bête qui est juste la moyenne, une agrégation plus intelligente qui est une agrégation qui prend en compte donc, la variance des estimateurs. Et donc, si on fait donc, cette série de choses... Ah oui, j'ai oublié une dernière. Dernière chose, aussi présente systématiquement tous les réseaux de neurones, c'est le multicouche. C'est-à-dire quand on a obtenu une estimation, on l'utilise et on recommence. Donc on l'utilise comme oracle et on recommence pour obtenir une estimation encore meilleure. Donc on utilise, comme c'est le principe de Wiener, Et on utilise donc la connaissance comme des coefficients de Fourier pour débruiter encore mieux une dernière fois. Et donc, on peut encore itérer, mais vous voyez que la progression est assez fantastique. Et donc, si vous regardez en décimales, vous voyez que des PSNR, vous passez d'un PSNR de 26,8, pardon, vous passez de 26,8, 27,3, 30,65, 30,73, 31,25, entre un DCT bête, un seuillage bête, et toutes les opérations faites dans le bon ordre, on a quand même gagné presque 5 points, c'est énorme. Alors, donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc voilà, avec ce que j'ai dit, voilà ce qu'on obtient, par exemple, si vous avez un bruit de 15. Un bruit de 15 sur chaque canal, c'est quand même beaucoup de bruit, vous voyez, une espèce de grain assez considérable, et quand j'alterne, vous voyez que vous obtenez une reconstruction qui a l'air presque très bonne, en fait. Et néanmoins, si j'alterne avec l'image, maintenant j'alterne avec l'image, là, l'image vraie, vous voyez que vous avez perdu, vous avez un peu de flou, vous avez bien sûr perdu un peu de détail. Il n'y a pas de miracle. Et puis, si on regarde bien, on peut voir aussi des petits artefacts, un peu d'effet de Gibbs. Alors maintenant, si on passe à des choses plus sérieuses, donc un bruit qui correspond plus à ce que vous avez quand vous faites une photo, disons, au crépuscule. Bien sûr, ça s'est ciblé sur une image de jour, donc ça peut paraître pas très naturel, mais disons, voilà, donc vous avez ce genre d'image, voilà, avec un bruit de 40. Un bruit de 40, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de... Pour la dimension, pour le curse of dimensionality dont parlait Stéphane, on dit, hop là, là quand vous avez un bruit de 40, chaque patch est vraiment en dimension 64, et l'image est vraiment en dimension... vous voyez, vous avez, dans toutes les dimensions, vous êtes en train d'utiliser toute la variabilité. Donc évidemment, c'est les propriétés du signal qui vont nous tirer d'affaire, et un bruit de 40 veut dire que chaque patch séparément a beaucoup plus de bruit que tous les quarts types de chaque patch est essentiellement dû au bruit et pas au signal. Alors néanmoins, voilà ce qu'on peut obtenir avec l'algorithme que je viens de décrire, mais là, vous voyez que, pour le coup, et c'était toujours des limites contre lesquelles il a fallu lutter donc, dans les 10 dernières années, vous avez les effets de Gibbs, c'est-à-dire le fait que seuiller dans des transformés, c'est aussi vrai pour les transformés en ondelettes, vous provoque ce qu'on appelle des rebonds, des effets de Gibbs, qui sont dus au fait que, comme vous l'avez vu avec la fonction de sync qui est encore au tableau, hein, que ce y revient implicitement à convoler qu'une fonction sync, donc vous créez des oscillations. Alors, peut-on faire mieux ? Eh bien, la réponse est oui, et ce qui est amusant, c'est que c'est néanmoins toujours en utilisant la même méthode, et donc là, ce que je montre, c'est le dernier résultat que je montre, là j'alterne entre les deux, un PSNR encore meilleur. Et en fait, il est juste basé sur le fait de faire la même, ce que j'ai dit jusqu'à présent, en plus en le faisant en multi-échelle. Donc on rajoute encore une couche de sophistication, et c'est ça des choses que peu à peu on a appris à faire bien pour tous les algorithmes. Donc ça, cet algorithme est assez récent, le multiscale distillé noising, et c'est celui-là qui n'est plus, c'est celui-là qui n'est plus qu'à, je vous disais, à 0,8 décibel du meilleur débruitage possible. Néanmoins, si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a quand même néanmoins quelques effets de Gibbs. Et puis, il y a aussi beaucoup de flou. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus espérer des miracles. Alors, je vais alterner avec l'image de départ. Vous voyez qu'il y a quand même une perte considérable et que, bon, il y a des détails qui ont littéralement disparu. Et donc, des textures comme celle-ci qui ressemblent complètement au bruit, donc logiquement, de son indistinguable du bruit, sont enlevées. Et je dirais que c'est un peu le même phénomène auquel on assiste ici. Dans un feuillage, il y a un moment donné où les choses deviennent désespérées. C'est-à-dire, si vous avez une image de bruit et que vous lui rajoutez du bruit, vous n'arriverez plus jamais à séparer les deux choses, d'accord, hein. Donc, ce transforme juste pour illustrer ce que veut dire faire du multi-échelle. Le multi-échelle consiste en gros au fait suivant, c'est que si, quand vous utilisez, alors ce n'est pas du tout vrai pour le transformé d'ondelettes, ce que je montre là, mais pour le transformé DCT, si vous travaillez sur des patchs et qu'ensuite vous regardez qu'est-ce qui se passe pour la DCT de l'image entière, ben vous voyez que les patchs ne sont pas du tout attaqués à la basse échelle. Donc il y a un problème d'échelle. Des patchs 8-8 ne voient pas à des échelles plus grossières. Donc tout le bruit reste dans les basses échelles. Et donc si vous voulez l'enlever, eh bien, il faut tout simplement zoomer arrière et débruiter, et zoomer arrière à nouveau et ensuite débruiter, et ainsi de suite. Donc en fait, vous décomposez en multi-échelle l'image, et donc vous gardez les parties, vous gardez les fréquences qui ont été bien débruitées à chaque échelle, et donc en fusionnant, à la fin, vous obtenez un truc plus raisonnable. Alors, bon, donc là, j'ai passé en revue, si on peut dire, tout ce qui est filtrage par seuillage de transformer. Je dirais que le discours que j'ai tenu sur l'usage de la DCT, bon, passe assez bien au transport d'ondelettes, sauf que dans le transport d'ondelettes, vous avez directement une structure multi-échelle qui est câblée, alors que dans le cas de la DCT, on est obligé de le rajouter. Alors, je vais parler maintenant d'une autre piste pour le débruitage, qui est ce qu'on a appelé les filtres à voisinage. Alors, les filtres à voisinage, en fait, sont basés sur une idée qui paraît tout à fait immédiate en ce qu'on veut faire du débruitage. Le meilleur débruitage du monde, c'est bien sûr juste de laisser la caméra immobile et d'attendre, pourvu que les sujets ne bougent pas. C'est comme ça que les premières photos ont été tirées. Les premières photos de Nicéphore Nips sont basées sur le fait de laisser de focaliser la lumière sur une plaque photosensible pendant toute une journée. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que à chaque intervalle de temps, vous avez donc des échantillons qui sont chacun bruités, U de X1, U de X2, U de Xn. Mais on a la formule de la variance qui nous dit, alors ces tirages sont les tirages de la même valeur, de la même variable aléatoire, mais ce sont des tirages indépendants. Donc on peut montrer que la moyenne est bien meilleure estimée, disons, si on veut estimer l'espérance, le mieux c'est de faire tout simplement la moyenne de ces échantillons. Et on a en plus une formule très intéressante qui nous dit à quel point cette moyenne est bonne, et c'est le fait que la variance, donc si on calcule la variance de la moyenne, elle est tout simplement, elle divise la variance de chacun des échantillons par n. Donc en d'autres termes, si vous trouvez, alors donc pour le débruitage, ça apparaît comme une sorte de Graal. Vous dites, bon, mais c'est très simple. Si j'ai un pixel et que je trouve, disons, 16 pixels qui relèvent exactement de la même variable aléatoire, donc c'est juste donc un autre tirage de variable aléatoire, j'en trouve 16, donc 16 pixels avec le même modèle, je diviserai le bruit par 4, ce qui est déjà pas mal, et si j'en trouve, disons, 64, je diviserai le bruit par 8. Alors, peut-être que c'est plus parlant même que les décibels de dire que, quand je dis diviser le bruit, ça veut dire diviser l'écart type du bruit. Donc, dans l'état actuel des choses, on sait diviser le bruit, l'écart type du bruit, donc, par à peu près 5, pour des images statiques, et pour la vidéo, on frise 8, ce qui est souvent assez spectaculaire. La vidéo, d'ailleurs, pour le coup, souvent assez spectaculaire. Alors, ensuite, quelle est l'idée des filtres à voisinage ? Bon, cette idée est due à... Je pense que l'idée remonte à Jaroslavski, en fait, dans les années 80. Je cite son livre, qui est de 86. Et donc, elle vient apparemment de la science soviétique, mais il y a aussi un Américain, Lee, qui à peu près à la même époque, qui avait proposé la même idée. Alors, l'idée des filtres à voisinage, c'est donc de chercher ces fameux pixels sur lesquels on va faire le modèle. Alors, juste pour revenir en arrière, dans la classification de Jaroslavski, qu'il décrit dans son livre, de toute façon, les filtres à voisinage, pour lui, c'est tout filtre. Alors, il commence, bien sûr, le filtre gaussien. Le filtre gaussien, c'est le filtre linéaire dont parlait Stéphane. On fait une convolution. Typiquement, si on veut lisser l'image, si on veut enlever le bruit, on peut convoler l'image avec une gaussienne. Auquel cas, vous allez avoir cette formule large lamet, parce qu'on va comparer cette formule aux suivantes. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une gaussienne. La gaussienne, sa formule est ici. Mais ce qu'il faut retenir juste, c'est que les poids, ces gaussiennes est d'intégrale 1. Et... les poids qu'elle... Donc ici, U de Y, ce sont les valeurs bruitées. Oméga, c'est le domaine de l'image. Donc ici, on intègre sur toute l'image. Donc on fait une moyenne pondérée de toutes les valeurs de l'image. Et ici, on va penser que le modèle qu'on pense, c'est que les pixels qui sont à une distance de l'ordre de grandeur de sigma, donc sigma étant une valeur qu'on peut imaginer quand même assez petite, de l'ordre de 4, 5, 6, donc les pixels proches, relève du même modèle, ce qui, par exemple, est vrai quand vous avez une zone uniforme de couleur de l'image. Dans ce cas-là, donc, l'idée est bonne. Donc, on va faire une combinaison linéaire pondérée selon la distance de x à y, des valeurs de u de y, et c'est ça qui va être donc, le débruité. Donc, ça, c'est le débruitage le plus élémentaire. J'ai mis en dessous l'intégrale de la gaussienne, juste parce qu'après, elle va rien. ça ne va rien pas dans cette formule où j'ai besoin de le faire. Là, en fait, ici, ça vaut 1, mais ce n'est pas grave. Après, ça ne vaudra plus 1, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, évidemment, l'idée de faire une convolution ne va pas très bien, parce que si vous prenez, ça va aller très bien dans certaines images, mais en une image comme celle-ci, ça va aller bien nulle part, puisque vous avez une forte variabilité entre les pixels voisins. Par exemple, si je prends un tout petit patch là qui est situé sur le bord de ce dé de Bamoin, vous voyez que vous avez des pixels qui effectivement semblent ressembler, des pixels qui ne ressemblent pas du tout. Mélanger ces couleurs ne donnera pas du tout la bonne couleur finale. Alors, évidemment, quand on voit ça, l'idée est élémentaire, et c'est ce que disait Jaruzelski, il faut faire la moyenne des choses qui ont le même modèle, et donc il faut en gros s'arranger pour sélectionner seulement les pixels rouges si je veux avoir un débruitage efficace. Eh bien, c'est exactement ce que fait le filtre à voisinage. Alors, le filtre à voisinage, c'est un filtre qui a eu une extraordinaire et énorme descendance. Il n'est pas du tout utilisé seulement pour le débruitage. En fait, il est tellement utilisé pratiquement partout dans les traitements d'images de caméraphones pour divers usages, mais qui sont en général liés à l'idée de décomposer l'image en base et détail, ce que je rappelle décomposition base-détail. Mais là, on va juste parler de l'usage débruitage. Dans l'usage débruitage, donc, en tout cas, le filtre a été découvert donc, au moins 4 fois, avec 4 noms différents, donc dans les années 80 par Jaruzelski, par Lee en 83, là il s'appelait filtre à voisinage, ici filtre sigma, en Smith et Brady en 97, et Tomasi de Banducci, alors là le nom était Suzanne, il n'est pas resté, et le nom qui est resté c'est le dernier, c'est le filtre bilatéral, Tomasi et Banducci, bilatéral voulant dire qu'on filtre à la fois en espace et en couleur. Alors, à quoi ressemble le moyen de convolution ? C'est assez amusant de voir, de voir ça comme moyen de convolution. Imaginez que votre input, ça soit ça. Donc ça, c'est une image, mais vue en perspective, où la hauteur veut dire la couleur, en quelque sorte. Donc, ensuite, si vous faisiez une convolution gaussienne, vous convoleriez cette image par ça. Ça veut dire que la valeur que vous allez estimer au centre, ici, va être une moyenne pondérée des valeurs ici et des valeurs ici. Donc, évidemment, vous allez complètement lisser. Si vous faites ça, vous n'aurez pas la bonne valeur. Mais si maintenant vous prenez en compte la distance des valeurs, c'est-à-dire pas juste la distance spatiale qui apparaît ici, donc ici vous avez dans la formule la distance spatiale, vous prenez aussi la distance des valeurs. Donc il y a deux gaussiennes, donc dans le filtre à voisinage il y a deux gaussiennes, il y a une gaussienne spatiale, si on avait que celle-là on ferait une convolution, mais vous faites aussi une convolution dans l'espace des couleurs, donc ici la gaussienne est en dimension 3, celle est en dimension 2. Et ici, donc, vous allez pondérer, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, la pondération de U de Y va dépendre d'une part de la distance entre X et Y et de la distance de la couleur de U de Y. Donc, en d'autres termes, U de Y va contribuer au débruitage de U de X si et seulement si il est proche, U de Y est proche, Y est proche en espace de X, et de Y est proche en couleur. Et bien sûr, là, il faut faire un terme normalisateur, et le terme normalisateur n'est plus trivial, puisque cette intégrale-là, pour le coup, n'a aucune raison d'être égale à 1. Donc voilà, ça, c'est le filtre à voisinage. Alors, si vous regardez maintenant ici ce que ça donne, voilà la gaussienne en espace, mais voici le terme indicateur en couleur. Donc ça veut dire que le filtre, si on peut dire, qui est différent à chaque point, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez coupé une tranche de, si je peux dire, une tranche dans la gaussienne. Donc là, vous avez les poids qui vont être utilisés pour un point qui est en haut. Les poids qui sont, vous voyez que les poids vont être essentiellement placés sur le côté haut. Et du coup, si vous appliquez ce genre de filtre à tous les points ici, vous gardez une singularité pratiquement à l'identique et vous avez des bruités. Donc c'est pour ça que le filtre C'est pour ça que le filtre bilatéral a une telle importance, donc il lui donne cette espèce de possibilité de séparer de manière non linéaire donc des oscillations qui sont dues au bruit ou à d'autres ou à des détails, tout en gardant donc les bords, les singularités parfaitement nettes. Alors, une petite extension de ça, c'est ce qu'on a appelé non-local bits, moyenne non-locale, parce que en fait, le seul défaut du filtre qu'il y a ici, c'est qu'imaginez que le bruit soit beaucoup plus fort qu'il n'est là, et il va se produire que des valeurs de pixels qui sont du bon côté, si je puis dire, descendent tellement bas qu'elles vont influencer donc, les valeurs qui sont en bas, et vice-versa. Donc, imaginez que il y a des gens en train de jeter des cailloux du bas vers le haut. S'ils les lancent trop haut, donc, ces cailloux vont atteindre le haut. Et donc, on pourrait imaginer que le comparer les couleurs n'est pas suffisant, il est en fait biaisé. Et donc, pour limiter le biais, eh bien, l'idée naturelle, c'est de remplacer la comparaison des couleurs, plutôt une couleur, c'est un vecteur à trois composantes, eh bien, pour être encore plus sûr de ne pas se tromper, pour être sûr que les pixels que nous allons faire contribuer au débruitage relèvent vraiment du même modèle, on compare le patch autour. Donc, la formule, à ce moment-là, se simplifie, parce qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va appeler ça non local, c'est qu'en fait, on n'a plus vraiment besoin à ce moment-là de mettre une contrainte spatiale, même si parfois on la met pour des raisons d'accélération. Donc voilà, j'ai mis cette image pour illustrer la chose. Les petits carrés jaunes ont le même modèle, les petits carrés rouges ont le même modèle, les carrés bleus ont le même modèle. Donc, de manière, ces carrés ici verts aussi. Donc, en gros, on peut donc exprimer, supposons que je veuille débruiter ce patch-ci, le patch vert ici, eh bien, je vais le débruiter en faisant une combinaison linéaire des patchs qui ressemblent le plus, et on peut l'exprimer à nouveau comme une convolution, si on me met ce coup-ci, c'est une convolution sur l'image toujours, mais où on travaille sur la variable patch, enfin, on intègre sur l'image, donc vous voyez, vous intégrez toujours sur l'image, oméga c'est l'image, dy c'est la mesure sur l'image, mais donc vous sommez pour chaque patch tous les patchs avec une pondération qui dépend de la distance entre les patchs. Donc, en d'autres termes, le patch PY, maintenant, va contribuer au patch PX si la gaussienne est proche de 1, c'est-à-dire si PX et PY sont proches l'un de l'autre. Bon, là encore, il y a un facteur de normalisation qui est nécessaire. Alors, disons tout de suite que donc, cette idée, comme toutes les grandes idées, remonte loin. Donc, en gros, on peut dire qu'on peut l'attribuer à Shannon, 1948, dans sa théorie de la communication. On peut aussi l'attribuer à Efros et Long, qui l'ont utilisé pour faire de la synthèse de texture, donc dans un but un peu différent. Alors, ce que ça veut dire pour les noyaux, par contre, est sidérant, parce que donc, dans le cours, ce matin, on vous a parlé de convolution. Ben, c'est l'espèce de convolution qu'on est en train de faire là. Si vous regardez quelle est sa trace sur l'espace, c'est-à-dire quel, étant donné le pixel central d'une image, quels sont les pixels que je vais utiliser ? Ben, en d'autres termes, donc là, on devrait s'attendre, si c'était une gaussienne, vous devriez voir ici une espèce de forme oblongue. Donc, dans un cas où dans l'image, on a une zone plate, sombre, comme ici, tous les pixels vont contribuer à débruiter le pixel central. Si le pixel, donc le noyau, c'est tout ça, si le pixel ici, qu'on veut débruiter, est sur un bord même un peu courbé, eh bien, ce sont les points. Les patchs qui vont ressembler vont être le long du bord, donc vous voyez que votre noyau se concentre le long du bord. Et ici, vous avez l'effet voisinage, c'est-à-dire si ce pixel-là peut utiliser tous les pixels qui sont autour, du moment que c'est la même couleur, vous voyez, ça fait une bande comme ça. Elle est un peu plus étroite parce qu'il y a la largeur du patch à prendre en compte, donc les patchs qui mordent sur le bord ne sont pas pris en compte. Dans un cas périodique, votre noyau devient lui-même périodique, il prend tout simplement tous les coins entre briques, vous voyez, pour débruiter, et là, pareil, ainsi de suite. Donc, on a une structure qui apparaît, et dans laquelle, évidemment, la métrique n'est plus du tout dans l'image, ni même dans les valeurs, elle est dans l'espace des patchs. Maintenant, si vous regardez, si on résume ceci en formule, nous avons maintenant trois formules. Nous avons donc la formule linéaire, convolution gaussienne, la formule donc déjà non linéaire, mais qui en réalité peut être exprimée de manière linéaire en dimension 5. Donc là, vous êtes en dimension 2, là, vous êtes en dimension 5. Là, vous intégrez néanmoins toujours sur l'image. Et donc ça, c'est le filtre à voisinage. Et finalement, une formule plus simple, exprimée comme où finalement, là, on renonce à la proximité spatiale, donc on barre ce terme et on sophistique ce terme-là. Et c'est donc non-local means, qui intègre toujours sur l'image, qui intègre les patchs avec un point gaussien. Donc là, remarquez que toutes ces formules sont là, ici, pour calculer la valeur à un pixel, ici aussi, mais ici, vous calculez la valeur de tout un patch, mais après, comme on a vu, si on a débruité des patchs, mais tant mieux, on a 64, par exemple, l'estimation du même pixel. Donc après, il faut faire une moyenne, il faut agréger ces valeurs-là. Alors, la meilleure manière d'espérer de voir le progrès des choses, alors je m'excuse, c'est un vieux transparent, donc il y a l'ENA, mais je sais que l'ENA est interdite maintenant, mais bon, donc, bon, enfin, bon, c'est un peu... Bon, on peut débattre là-dessus, mais c'est pas, donc en tout cas, j'ai gardé cette image parce que c'est la première fois, en tout cas, que l'ENA, qui était donc une image test très, très utile à l'époque, était débruitée en prenant l'original, et on pouvait comparer donc, les débruitages. Donc, vous voyez, donc, ici, ce que vous voyez, c'est le bruit. C'est la différence entre l'image et l'image débruitée. Donc ici, le débruitage gaussien, il marche très bien au sens que, par exemple, vous voyez, sur les zones régulières, donc là où l'endroit, l'image est régulière, le débruitage gaussien débruite parfaitement, mais il rend évidemment l'image floue. Donc la différence des images, en fait, c'est en gros le laplacien de l'image, c'est ce qu'on voit ici. Si on utilise un filtre à voisinage, vous voyez que l'ENA commence à disparaître, sérieusement, et si on utilise les moyennes non locales, eh bien l'ENA a pratiquement complètement disparu. Il ne reste plus que quelques cils, quelques petits détails qui sont effectivement non autosimilaires, en fait, typiquement des choses qui ne se répètent qu'une fois. Alors, bon, alors, l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Et donc là, on va parler maintenant du vaste espace de l'apprentissage. On va se dire pourquoi vous avez remarqué que dans cette formule de Edelmans, on est déjà en train de considérer qu'on peut utiliser toute l'image, et évidemment, l'idée est tout à fait naturelle de se dire qu'on peut, pourquoi ne pas utiliser toutes les images. Bon. Maintenant, cette idée nous est familière parce que tout le monde ici pratique des réseaux de neurones convolutionnels, etc. Mais donc, en 2011, ce n'était pas encore tout à fait dans les mœurs, mais donc, il y a eu une première. Là, on a un argument théorique. Par contre, on a un argument théorique très intéressant et qui va nous montrer, qui va nous donner une formule que après on pourra approximer de toutes les manières qu'on veut, mais on va la donner. On va donner une formule qui nous donne le débruitage idéal. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, c'est un raisonnement qui est bayésien classique. On commence par donc à partir de maintenant, on va toujours raisonner dans l'espace des patchs. Donc, et puis bon, typiquement, on considère que l'ensemble des patchs présents dans le monde est un objet scientifique, puisqu'on peut le faire, on peut télécharger littéralement des milliards d'images et on extraire tous les patchs, donc l'objet existe. Et donc, quelque chose qui avant était un objet très théorique devient pratique. On va parler de distribution de probabilité sur l'espace des patchs. Alors, d'abord, la première chose, c'est que le modèle de bruit. Le modèle de bruit, je ne l'ai pas donné, je n'ai pas mentionné, enfin, je ne l'ai pas dit, mais on prend toujours un modèle de bruit blanc gaussien qui est en fait parfaitement réaliste. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la probabilité d'observer un patch bruité quand on connaît le patch non bruité, c'est cette formule-là qui, en fait, ne dépend que de la distance entre les deux patchs et avec une gaussienne. Donc, vous reconnaissez, en fait, le même coefficient qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Donc l'exponentielle de norme de P moins Q au carré. Et ensuite, grâce au fait que nous avons cette formule, on peut tout de suite, par la formule de Bayes, donner une estimation de la meilleure estimation possible d'un patch, sachant que ce coup-ci, on va se donner un patch bruité, et on veut estimer le patch débruité. Donc ici, vous voyez, vous aviez la probabilité du patch bruité connaissant le patch non bruité. Ici, on inverse la question. On dit, maintenant, j'ai le patch bruité. Donc, c'est P, ici. Et alors, à ce moment-là, la meilleure estimation qu'on puisse estimer en moyenne, je dis en moyenne quadratique, la meilleure estimation quadratique du patch non bruité, c'est l'espérance conditionnelle, donc de Q connaissant P. Ce qui se formule comme ça, c'est l'intégrale. L'intégrale elle doit être faite sur l'ensemble des patchs, bien sûr. Donc l'intégrale, on intègre sur tous les patchs possibles. Et donc, on somme Q pondéré par la probabilité de Q connaissant P. Alors ça, on ne le connaît pas, parce que ça, c'est la probabilité d'un patch donc, non bruité connaissant le patch bruité. Ce qu'on connaît, c'est l'inverse. C'est la probabilité du patch bruité connaissant le patch non bruité. Mais néanmoins, on peut écrire cette formule qui, jusque dans les années 2000, était complètement théorique. Donc les gens pouvaient l'écrire, mais après, ils faisaient un petit bidouillage. Ils ne pouvaient pas, l'appliquer. Alors, mais tout le monde écrivait depuis très longtemps ça. Je crois qu'on le retrouve, par exemple, dans l'article de Gaiman et Gaiman, qui étaient les premiers à faire du modèle d'image stochastique. Donc, on applique la formule de Bayes. Donc, on écrit ici que P de Q sachant P, c'est égal à P de P sachant Q, P de Q sur P de P. Bon, vieille et bonne formule, mais qui a l'immense avantage que cette partie-là est triviale, puisque c'est le modèle de bruit, c'est P de probabilité du patch bruité connaissant le patch sans bruit. Donc, on peut écrire finalement le débruitage idéal. Il a une formule, c'est celle-là. C'est l'intégrale donc de G sigma n, là, c'est la gaussienne, celle qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui est ici. Donc vous avez la gaussienne appliquée à la différence entre le patch bruité et un patch quelconque. Et vous intégrez sur tous les patchs possibles, d'où le Q des Q qui est ici. Et évidemment, vous pondérez à nouveau ici. Donc ceci, c'est la meilleure estimation possible d'un patch bruité connaissant tous les patchs du monde. Voilà, donc si on peut dire, bon, on a tous les patchs, bon, on a une formule. Donc, tout va bien. Alors, est-ce qu'on peut appliquer cette formule? Alors, bien, à vrai dire, oui. Donc, plusieurs collaborateurs, en particulier Martin Reiss et Nicolas Pirazzo, nous l'avons fait, nous avons pris quelques dizaines de millions de patchs, nous avons débruité quelques patchs comme ça, et les résultats, c'est dommage, je ne retrouvais pas les transformations dessus, mais on peut voir effectivement qu'on obtient un résultat tout à fait raisonnable. Néanmoins, évidemment, la chose est lente, très lente, et vous n'avez pas envie d'intégrer sur un trillion de patchs pour débruiter un patch, bien sûr. Et il y a une autre objection que je vous dirai si vous me la demandez plus tard, mais en tout cas, la formule est là. Donc, on peut dire qu'à partir de là, on peut se dire, bon, quelles sont les meilleures manières de faire ça? Mais d'abord, on peut remarquer que non-local means est juste cette formule-là, mais appliquée à l'intérieur de l'image elle-même. Donc, l'univers des patchs, c'est juste l'image elle-même. Alors, pourquoi c'est quand même relativement efficace? Eh bien, tout simplement parce que les patchs les plus ressemblants ont une forte probabilité d'être dans l'image elle-même, parce que les conditions d'éclairage, les répartitions d'objets sont les mêmes, etc. Donc, il y a une justification, donc, on peut dire solide, donc, elle l'utilise déjà dans une seule image, mais bien sûr, on peut faire mieux avec beaucoup d'images. Alors, ensuite, donc, pardon, qu'est-ce qui se passe, là, je suis en train de sauter, excusez-moi, je vais trop vite. Voilà, j'en étais là. Oui, donc, dans l'article de Nadler et Levin de 2011, ils ont fait des tests, ils ont réussi à débruiter une petite image en utilisant 2 puissance 10 patchs, c'est-à-dire à peu près 2 milliards de patchs. Alors, ensuite, la formule, ce que je n'ai pas dit, c'est comment la formule passer en discret. Alors, pour passer en discret, vous devez passer d'ici à ici. Alors, ici, vous intégrez sur l'espace des patchs, qui est juste l'espace euclidien. Donc ici, vous êtes en dimension, vous êtes dans R puissance 64. Par contre, vous pouvez aussi écrire les choses comme c'est écrit ici. Alors si vous comparez les deux, vous verrez que le P de Q a disparu, parce qu'ici, vous devez prendre en compte la densité. Dans l'espace euclidien, il y a une densité pour l'espace des patchs. Par contre, vous dites, bon, si j'intègre sur l'espace des patchs lui-même, whatever it is, comme disent les Anglais, quoi que ce soit, on ne sait pas ce que c'est, il y a des gens qui disent que c'est une variété, bon, peut-être, supposons qu'on intègre dessus, à ce moment-là, donc on n'a plus qu'à intégrer donc Q, DQ. Mais évidemment, et comment reprendre le DQ? Ben, c'est très simple. Donc c'est simplement, vous prenez tous les patchs, et comme vous avez, vous considérez que l'ensemble de tous les patchs est un échantillonnage de l'ensemble des patchs. D'accord? Vous avez pris tous les patchs du monde, et ils représentent une densité de probabilité. Ils représentent des échantillons de densité de probabilité. Peut-être pas. Au fond, comme on est en dimension 64, vous diriez que cet échantillonnage, même avec des milliards de patchs, est peut-être tout à fait insuffisant, mais bon, on le prend. Et donc, à ce moment-là, la formule précédente devient juste une simple moyenne, où ici, vous avez à nouveau la gaussienne, enfin, les poids qu'on a mis précédemment, et donc, on fait cette moyenne-là. Alors, on peut faire la chose localement. Alors, voilà, à partir de maintenant, on va être obligé à nouveau de bidouiller un peu, parce que Alors, d'abord, donc, ce que j'ai dit, c'est d'abord que la formule était assez impraticable, puisqu'elle nous oblige à sommer sur une quantité énorme de patchs. Mais le bon sens nous dit qu'il suffirait de trouver les patchs qui sont proches du patch bruité, les patchs qui sont, on peut dire, pertinents. Mais si vous faites ça, ça ne marche pas. Ça va marcher pour les patchs qui ont de la structure, mais sur les patchs qui ont du bruit, ça ne marchera pas du tout. Pourquoi ? Parce que si votre patch est un patch de bruit, vous trouverez, quand vous avez une immense quantité de patchs, vous allez avoir de l'overfitting. C'est-à-dire que vous allez trouver les patchs les plus proches sont des patchs de bruit. Donc il faut vraiment faire la moyenne sur tous les patchs, vraiment, si vous voulez avoir un résultat. Donc, on a un problème donc, d'overfitting. Alors, des manières de tirer le bon overfitting, c'est de faire un modèle, c'est-à-dire de dire non, on va essayer de modéliser les choses de manière avec moins de patchs pour éviter l'overfitting, mais en prenant les patchs pertinents, mais en modélisant. Donc une des manières de faire, là, c'est les calculs que vous voyez ici, je ne vais pas les détailler, mais c'est exactement les mêmes que précédemment, c'est de dire que dans l'espace des patchs, on va regarder maintenant deux manières de approximer l'espace des patchs. Donc, on est dans l'espace des patchs, bon, c'est une espèce d'énorme machin, personne n'a jamais réussi à voir réellement quelle tête ça avait, mais ce qu'on fait dans ces cas-là, si on n'a pas d'autres hypothèses, c'est qu'on prend un morceau et on le modélise comme une gaussienne. C'est-à-dire on se dit, bon, localement, on va approximer notre espace, notre fonction de densité de patch comme une gaussienne, c'est raisonnable. Alors dès que vous avez fait ça, vous avez en fait à nouveau une formule du même type que ce qu'on a eu précédemment, qui nous permet d'estimer la matrice de covariance des patchs qui ressemblent à un patch donné et de débruiter. Et donc ça, c'est ce que les gens appellent bayésien non local, mais en fait, ils devraient plutôt appliquer bayésien local, puisque quand même, là, on se restreint à l'image. Et donc, je ne vais pas insister dessus, et je vais donc juste montrer d'abord quelques exemples pour que vous voyez quel genre de progrès est fait par ces considérations. Donc là, voici un détail original. Voici ce que vous obtenez par débruitage des CT. Je précise qu'il n'est pas multi-échelle. Si c'était multi-échelle, on se débarrasserait de ces espèces de nuances comme ça, de guépard qu'il y a dans le ciel. Donc on peut faire mieux que ça déjà. Voilà ce que vous obtenez par des algorithmes qui ont été considérés jusqu'en 2013, je crois, comme le meilleur algorithme par ondelette, en tout cas en PSNR. Mais donc c'est l'algorithme de Portia Simoncelli. Et bon, malheureusement, disons, il a énormément d'effets de Gibbs. Et donc, curieusement, il est bon en PSNR, mais il n'est pas très, très joli à voir. Ici, vous avez KSVD, qui utilise l'idée. Alors, KSVD, l'idée, c'est l'idée de parcimonie qu'a évoqué aujourd'hui ce matin Stéphane, qui est le fait que les patchs seraient eux-mêmes seraient parcimonieux, donc, et donc ils auraient une décomposition très parcimonieuse sur un dictionnaire de patch qu'on peut constituer. Donc il y a un algorithme qui fait ça, c'est KSVD. Et voici ici Edelmins, qui a quand même l'inconvénient d'être dans des images un peu trop floues, donc ce n'est pas très bon en PSNR. Voici donc deux approximations, deux choses qu'on peut interpréter toutes les deux comme des approximations donc, de l'espace des patchs par une gaussienne locale. Donc il y a BM3D qui en fait utilise la base de DCT, fondamentalement, et non-local base, c'est presque la même chose, sauf que la base est calculée à partir de l'ensemble des patchs. Mais donc là, c'est pour chaque patch, on cherche les patchs qui ressemblent et on trouve une base adaptée à ce groupe de patchs qui ressemblent. Ici, la base est fixe. Donc il y a un peu moins d'effet de Gibbs avec une base évidemment adaptée à chaque patch, mais les PSNR sont relativement comparables. Alors, bon, alors maintenant, on va continuer toujours plus vers l'apprentissage. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est ça. D'abord, on avait pris un patch. On commence toujours par prendre un patch. On a pris une base fixe, la DCT, et on a fait une hypothèse de parcimonie. Donc, implicitement, quand on le regarde après coup, on peut se dire, bon, finalement, on peut dire que c'est le meilleur. Si ça revient à supposer que le patch vit dans un monde gaussien, que la base de vecteur propre de cette gaussienne serait la, de cette gaussienne sur la DCT. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que les méthodes d'apprentissage maintenant semblent évoluer, enfin juste l'idée de trouver une base orthogonale la mieux adaptée à chaque patch, et ce, de manière de plus en plus globale. Donc en fait, la méthode la plus sophistiquée que sur laquelle j'ai expérimenté récemment, avec Samuel Hureau et Thibaut Héré et Pablo Arias, c'est ce qu'on appelle EPLL, ce qui veut dire piecewise linear. J'ai oublié ce qu'était le dernier L, je m'excuse. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on voudrait approximer l'espace des patchs par morceaux, comme une gaussienne. Alors, donc pour ça, il y a une méthode, c'est de considérer finalement que l'espace des patchs est un mélange de gaussiens. Une mélange de gaussiennes, mais combien ? Voilà. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous montrer le résultat. Donc, le résultat est obtenu en prenant finalement pas tant d'images que ça, pas tant de patchs, parce qu'après, on voit que les résultats se stabilisent, donc on voit que c'est pas la peine. Donc là, 419 images, à peu près 2 millions de patchs, on en extrait à peu près 2 millions de patchs, et on essaie dessus d'apprendre un mélange de quelques centaines de gaussiennes. On verra qu'en fait, avec 200, on est à peu près content. Alors, est-ce qu'on rejoint la parcimonie ? Alors, la réponse va être oui et non. Alors, pour regarder ce qu'on obtient, bon, là, on est en train d'essayer d'explorer l'espace des patchs, donc un espace de dimension 64. Eh bien, on ne va pas l'explorer globalement, on va regarder donc son approximation locale par une répartition gaussienne. Donc, cette répartition gaussienne, ce qu'on regarde, c'est sa dimension, si on peut dire. Est-ce que la dimension va être plus petite que 64 ? Donc, en d'autres termes, est-ce que les patchs sont parcimonieux ? Et la réponse, pour beaucoup des gaussiennes qu'on trouve, est oui. Donc là, alors vous le voyez illustré ici. Donc voici je vais montrer quelques-unes des gaussiennes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Dans le même format que vous avez vu pour la DCT au début de cet exposé, donc vous avez ici la base, donc la base de vecteur propre de la gaussienne, d'une des 200 gaussiennes qui ont été associées à l'espace des patchs. Et ce que vous avez ici, c'est les valeurs mises en ordre décroissante. Donc oui, pardon, les vecteurs de base sont ordonnés par la variance des vecteurs propres associés. Et ici, vous avez les valeurs propres associées. Donc ce que vous voyez, par exemple, pour cette gaussienne-là, c'est qu'il y a un coefficient complètement dominant, un deuxième. Ensuite, quelques-uns, vous voyez, vous allez à peu près... On voit qu'il y a des choses significatives, peut-être jusqu'à... En fait, il continue. Alors, ce n'est pas sparse, ce que vous voyez, vous avez une décroissance très rapide, puis après, elle est lente. Donc, vous avez, si on peut dire, du bruit, de la microtexture. Là, vous avez quand même des valeurs non nulles, mais vous avez quand même une décroissance très rapide. Si vous simulez les patchs correspondants, vous voyez que, par exemple, cette gaussienne-là correspond quand même à un patch de microtexture, mais assez régulier. Un autre exemple. Alors là, c'est un exemple qui quand même, beaucoup des gaussiennes sont comme ça. La décroissance est lente, mais pas très lente. Vous voyez, parce que vous vous rendez compte, jusqu'à la dimension 30, vous avez encore des valeurs significatives. Donc, du coup, là, on a un patch qui est moyennement, disons, régulier. Hein. Donc, on pourrait l'interpréter comme étant dans un espace de Sobolev. Effectivement, la décroissance des coefficients est quand même assez rapide, mais bon, c'est peut-être dû à sur-X, mais ce n'est pas une chose qui est seuillée. Et beaucoup des gaussiennes ont ce comportement-là. Je ne vais pas en montrer beaucoup, puisque en fait, elles sont toutes à peu près semblables. Quand on regarde la base ressemble beaucoup à une base DCT pour ces gaussiennes. Donc, tout semble indiquer que l'espace des patchs, pour une bonne part, est quand même une gaussienne assez molle, donc qui n'est pas parcimonieuse, pour laquelle on n'a pas tellement d'espoir. Et ça, c'est évidemment lié à la présence de textures dans les images, comme les feuillages qu'on voyait tout à l'heure dans une des images. Donc les feuillages, il y a partout des textures, et ces textures, en fait, créent des oscillations. Donc quand vous simulez les patchs sous-jacents, bien, vous avez des choses comme ça, qui ne sont pas donc des choses parcimonieuses. Elles ne le sont pas. Par contre, il y en a. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que... Donc là, voilà un autre exemple donc, de ce que donne le mélange de Gaussien, le mélange de Gaussienne. Vous avez ici donc, les patchs simulés. Alors, en fait, là, on peut voir vraiment, on peut interpréter littéralement ce que c'est que ce patch. Alors, il faut comprendre, il faut voir que vous voyez tantôt noir ou blanc, parce que là, la Gaussienne, c'est... Il n'y a pas de signe. Donc, si vous avez un patch, son opposé obéit au même modèle. Donc, en fait, mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est modélisé ici, c'est un patch qui, en gros, a un fort contraste sur la dernière ligne, tout simplement. Fort contraste sur la dernière ligne, puis un contraste un peu plus faible sur le reste. Et donc, quand vous regardez la base associée, vous voyez que les trois premiers éléments qui sont en fait écrasants par rapport au reste du spectre, les trois ou quatre premiers éléments sont ici, et ils sont tous des variations donc, horizontales. Donc, vous avez un patch qui est vraiment un patch de bord horizontal et de bord situé en bas. Voilà. Bon, de même ici. Alors là, je passe. Alors oui, l'apprentissage peut se faire en noir et blanc, mais peut se faire en couleur. Normalement, je passe à des gaussiennes couleurs. Donc ici, voici par exemple donc une gaussienne qui correspond visiblement. Alors ne vous étonnez pas si les couleurs ont l'air un peu criardes, parce que les patchs sont rehaussés pour mettre toujours entre le minimum et le maximum. Donc il faut relativiser. C'est ça. Il s'agit d'un patch extrêmement régulier en fait. Il y a très très peu d'oscillations et il représente un dégradé donc qui est plutôt dans le bleu et le vert. Et donc là, c'est pratiquement les quatre premiers éléments de la base qui comptent, tout le reste est vraiment plat. Un autre encore, tout à fait du même type. Donc ici, il s'agit de... Sauf que ici, on a vraiment à nouveau un contraste qui est uniquement horizontal, donc ce qu'on voit dans le fait que les cinq premiers éléments de la base, les six premiers éléments de la base présentent tous de l'activité horizontale. Donc là, on voit effectivement qu'on a l'impression qu'en tout cas, il y a des morceaux, enfin, en disant un mélange gaussien, voici encore un dernier exemple, toujours très sparse, mais j'insiste, il y a des exemples non sparses. Hein, je montre les plus sparses parce qu'ils sont intéressants à voir. Là, par exemple, celui-là est intéressant, pardon, c'est le dernier, et vous voyez là que ça modélise un contraste oblique, hein, c'est-à-dire dégradé dans une direction un peu diagonale. Et bon, donc. Tout ceci est raisonnable, et donc, en fait, ça conduit à un algorithme qu'on appelle le PLL. Alors, je précise, tous ces algorithmes que je viens de décrire, vous pouvez littéralement les rentrer dans une structure de réseau de neurones, parce qu'en fait, vous pouvez assez facilement l'interpréter, les algorithmes eux-mêmes, comme étant un ensemble de filtres suivis d'opérations non linéaires, suivis à nouveau de filtrage. Donc, c'est particulièrement le cas pour l'approximation par un mélange de gaussiennes, puisque ce que vous faites, c'est que vous avez, une fois que vous avez estimé vos gaussiennes, pour débriefer ce que vous allez faire. Pour chaque patch, vous allez d'abord découvrir à quelle gaussienne il appartient, si je puis dire, quelle est la gaussienne la plus probable. Et ensuite, sur cette gaussienne, bien, vous décomposez le patch, donc c'est des filtres, et vous reconstruisez par un filtre inverse, atténuant de type Wiener. Donc, c'est un filtrage inverse. Donc, vous pouvez raisonnablement mettre ça dans 4-5 couches d'un réseau type convolutionnel. Donc, PLL, par exemple, disons, semble tout à fait implémentable dans ce style. Donc, il serait intéressant, d'ailleurs, de voir ce qui se fait maintenant beaucoup, ce qui est très à la mode chez les chercheurs en traitement d'images. S'ils prennent des algorithmes classiques, ils les rentrent dans une structure de réseau et ils les réoptimisent. Donc, ils prennent un algorithme classique, ou la minimisation totale, par exemple, pour ceux qui connaissent, et ils prennent un algorithme classique de minimisation, et ils le relaxent en utilisant une base de données pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et évidemment, ça fait mieux que des algorithmes, disons, on peut dire, humains. Alors, donc ici, notre modèle, alors le modèle pour EPLL, donc c'est. Tu me dis quand je dois arrêter, c'est maintenant, c'est. Donc, hein? C'est maintenant. 5 minutes, ok. Donc, bon, ben, donc je peux conclure là-dessus pratiquement parce que je... Donc en fait, la décomposition. Donc là, le modèle, c'est juste donc un mélange de gaussien, donc c'est très simple. C'est en fait une alternative donc, entre divers filtrages. Donc du point de vue probabiliste, ça veut dire que la probabilité d'un patch est une somme de gaussiennes, donc une somme de lois normales, chacune avec une moyenne et une matrice de covariance, donc c'est là que sont contenus les filtres, et avec des probabilités. Donc une fois que vous avez ça, assez logiquement, on peut minimiser donc pour chaque patch une fonctionnelle qui correspond exactement à trouver le maximum a posteriori, c'est-à-dire trouver, donc c'est exactement ce qu'on avait vu au début pour le débruitage global, sauf que maintenant, c'est le débruitage global relativement au mélange de gaussien, donc on cherche le patch le plus probable, étant donné le patch de bruité, et donc on minimise donc deux termes, donc l'un va être le logarithme de la probabilité correspondant à ce modèle-là, P de P, et l'autre, c'est le terme qui correspond à la probabilité, enfin, au modèle de probabilité du bruit. Donc on a un formalisme rigoureux, on peut minimiser, et on peut débruiter. Alors là, j'avais quelques statistiques sur ce qu'on peut faire avec ça, mais je peux vous dire très brièvement, on découvre qu'un mélange avec 200 gaussiennes suffit, qu'aller au-dessus ne semble pas vraiment utile. On découvre aussi que ce n'est pas vraiment la peine de dépasser 2 millions de patchs pour l'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on puisse pas... Alors, comment est-ce qu'on mesure ça ? Bien, on mesure ça par le niveau de débruitage. Quand vous voyez que vous ne gagnez plus en débruitage, vous dites que ce n'est plus la peine de raffiner le modèle. Alors, je vous dirais que ce n'est pas un argument absolu, mais c'est quand même une bonne mesure. Et ensuite, on peut le faire multi-échelle. Là, ce que vous voyez, c'est... Alors, pour une image donnée, vous voyez, par exemple, la contribution de chacune des 200 gaussiennes. Vous voyez que toutes les 200 gaussiennes sont utilisées. Ça, c'est les histogrammes des contributions. Le fait de le rendre multi-échelle gagne un petit peu, on peut le rendre multi-échelle. Et je termine juste avec un exemple donc de débruitage par réseau de neurones. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous montrer un débruitage par réseau de neurones, donc je vais aller très vite pour dire que vous pouvez aussi, directement faire des réseaux de neurones multi-échelle. Alors, le meilleur exemple que j'ai vu jusqu'à présent, et il est quand même déjà un peu ancien, c'est le perceptron multicouche de Burger et Schuller, publié en 2012-2013, qui, en fait, il fait aussi bien. Alors évidemment, ils montrent des exemples où ils font moins bien, mais c'est un peu mal de leur coupe. En fait, ils font aussi bien qu'une quelconque des méthodes que j'ai montrées là. Simplement, c'est peut-être un peu moins souple puisqu'il faut l'apprendre pour chaque niveau de bruit, etc., etc. Mais disons, néanmoins, donc, assez logiquement, quand un réseau de neurones a suffisamment de couches et suffisamment de paramètres, suffisamment d'images pour apprendre et qu'on prend la patience de le faire, on arrive maintenant à rejoindre, les meilleurs algorithmes humains. D'un autre côté, comme vous avez vu, les algorithmes humains ont aussi pris peu à peu le biais de l'apprentissage. Il y a une progression raisonnable, d'idée d'utiliser de plus en plus de données pour des algorithmes conçus par les humains. Et finalement, la petite déception néanmoins, c'est que vous pouvez prendre la voie que vous voulez. C'est comme quand vous faites les voies pour monter l'Everest. Vous arrivez toujours, vous faites comme ci, vous faites comme ça, vous grimpez, vous variez, etc. Et à la fin, vous arrivez toujours au même sommet, ou même plafond plutôt. Il y a un PCNR que maintenant on ne crève plus. Donc ça. Et comme maintenant on a ici des algorithmes aussi locaux que globaux, que de plus en plus globaux, je pense que il y a des gens qui, dans les années 2010, 2011, 2012, ont commencé à dire que le débruitage était terminé. Et c'est peut-être vrai, parce que, enfin, en tout cas, moi, je tendrais maintenant à penser plutôt que les gens ont raison et qu'on ne pourra jamais faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, les réseaux de neurones viennent plutôt comme une confirmation de ce fait-là, puisque, on peut dire, la structure d'apprentissage pour le débruitage est une structure idéale pour un réseau de neurones, idéale. D'abord, parce que, comme vous avez vu, les étapes de tous les algorithmes de débruitage humain qu'on a vus sont tout à fait formalisables comme réseau de neurones. Donc, on reste bien dans la même classe d'algorithmes. Donc, alors, on pourrait dire non. Et puis, d'autre part, donc c'est un cas où notre base d'apprentissage est illimitée et elle est exacte. Il n'y a pas d'annotation humaine. L'apprentissage, si on donne un patch sans bruit, c'est très facile de faire des patchs sans bruit. Il suffit de prendre des images de très bonne qualité, de les zoomer arrière. On peut donc créer autant de patchs sans bruit qu'on veut, les bruiter exactement comme on veut, et on peut apprendre. Donc, s'il n'y a pas de triche, et mais le résultat semble être, on trouve à peu près le même résultat en PSNR. Et probablement parce qu'il y a un moment donné où le bruit se mélange au bruit inhérent, le bruit des microtextures, et donc il y a une limite qu'on ne pourra peut-être jamais dépasser. Bon, mais je remercie beaucoup de votre attention.